En Italie, dans les journaux, les cercles locaux et à la radio, une campagne préparatoire contre les juifs. À sa mort, Giuseppe Raimondo avait 58 ans. Et Nora, qui en avait 66, était déjà à la retraite quand elle se trouva veuve. Retenue par une sorte de terreur sacrée des sépultures, elle ne rendait jamais visite à la tombe de son mari. Mais il est certain pourtant que le lien le plus tenace qui la rattachait à la ville de Cosenza était le voisinage du défunt qui demeurait encore là dans ce cimetière. Elle ne voulut jamais plus quitter le vieux logement qui était devenu sa tanière. Elle n'en sortait tout au plus que le matin, de bonne heure pour faire son marché, ou les jours où elle devait toucher sa retraite ou envoyer le mandat habituel aux très vieux parents de Giuseppe. À ceux-ci, comme aussi à Ida, elle écrivait de longues lettres que les deux vieillards, qui étaient analphabètes, devaient se faire lire par autrui. Mais dans ces lettres, elle se gardait jalousement de faire allusion, fût-ce même de façon indirecte et prudente, à tout ce qui la terrorisait concernant l'avenir. Car, maintenant, elle soupçonnait partout des censures et des espions. Et dans ses messages, aussi fréquents qu'interminables, elle ne faisait que répéter de toutes les manières toujours la même idée. « Voyez comme le destin est bizarre et contre nature. J'avais épousé un homme de 8 ans plus jeune que moi, et selon la loi naturelle, c'est moi qui aurais dû mourir la première, assistée par lui. Au lieu de cela, c'est à moi qu'il est échu d'assister à sa mort. » Quand elle parlait de Giuseppe, elle écrivait toujours « lui » avec une majuscule. Son style était prolixe et plein de redites, mais d'une certaine noblesse pédagogique. Et son écriture était penchée et fine, vraiment élégante. Mais quand, vers la fin, elle commença à décliner, ses lettres devinrent de plus en plus brèves. Son style était maintenant haché et décousu. Et les caractères tremblotants et tout de guingois de son écriture avançaient à tâtons sur la feuille de papier, comme incertains de leur direction. En dehors de cette correspondance qui l'occupait, telle une graphomanie, ses seuls passe-temps étaient la lecture de revues illustrées ou de romans d'amour et l'écoute de la radio. Depuis longtemps déjà, les nouvelles de la persécution raciale en Allemagne l'avaient alarmée, comme un signal précis confirmant ses anciens pressentiments. Mais quand, vers le printemps de 1938, l'Italie entonna à son tour le cœur officiel de la propagande antisémite, elle vit la masse tonitruante du destin s'avancer vers sa porte et grossir de jour en jour. Les speakers de la radio, avec leur voix ronflante et menaçante, semblaient déjà envahir physiquement son petit logement, y semant la panique.